Bonjour à tous, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. En ce vendredi après-midi, venteux et froid, effectivement, janvier n'est jamais la période la plus sexy de l'année. Mais rassurez-vous, on va, en Erosmose que vous écoutez présentement, on va s'employer à vous réchauffer la libido, qui ça on? Eh bien moi-même, Stéphane, à l'instant, qui vous souhaite d'ailleurs bonne année, ainsi que la voix la plus suave de la radio française, Laurence, bonjour.
Bonjour, petite friponne. Fripon, je vais dire friponne.
Ah ben voilà, je m'adresse au fripon, elle s'adresse au friponne, comme ça la parité est respectée. Et bah écoute, bonne année, chers collègues, meilleurs vœux, je te souhaite tout le meilleur.
Bonne année, chers collègues, tous les miens également, et tous les miens et tous les nôtres, à tous les auditeurs qui sont à l'écoute des Rosmose avec nous.
Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution, et il y en a parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont pris la bonne résolution de dire un peu moins de mensonges cette année, de dire plus la vérité, mais parfois ça peut vous amener à des situations un petit peu compliquées, donc soyez prudents. Je vous en donne pour preuve ce titre d'Orelsan dans lequel il nous explique que dire la vérité n'est pas toujours souhaitable.
Ouais, excuse-moi de te déranger, je t'observe depuis tout à l'heure et en fait je te trouve trop charmante.
Ah ouais, vraiment?
Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que t'es le genre de meuf qu'on rencontre qu'une seule fois dans sa vie.
Carrément, mais franchement, vous êtes vraiment tous des baratineurs.
Ah
vous
ouais.
Pouvez pas venir nous voir comme ça tranquillement et nous dire simplement la vérité.
La vérité? Ah, bah ça tombe bien parce qu'en fait...
Parce qu'en fait, j'ai pas eu de rapport depuis des mois. Je recherche une fille un peu facile, un peu naïve qui voudrait sortir avec moi.
Sortir avec moi.
Tu m'attires pas plus que ça, mais je taperai dans n'importe quoi. J'ai l'intention de te faire
teaser
jusqu'à ce que tu veuilles bien dormir chez moi. J'irai jamais décrocher la lune pour tes yeux, mais quitte à rien branler, autant le faire tous les deux. Où je veux que tu sois plus ou moins ma petite copine, en attendant d'avoir trouvé mieux.
Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire.
Oublie tes rêves d'ado, j'oublie ton anniversaire pour esquiver le cadeau. Je paye même pas le McDo. Si tu cherches un beau gosse sportif et romantique, c'est raté. Paraît que je suis juste un pauvre type égocentrique. Si ta meilleure copine est bonne, j'essaierai de l'attraper. Si je me fais cramer, je dirais que c'est elle qui m'a dragué. Je serai gentil quand t'auras bien travaillé. Un bouquet de fleurs de rond-point, je débarque chez toi quand j'ai plus rien à crailler. Je fais ni le ménage, ni la cuisine. Si on va au cinéma, c'est toi qui paye, c'est moi qui choisis le film. Si on va en boîte, c'est sans toi. Parce que si je rencontre n'importe quelle meuf qu'on s'entende, je rentre dans le tas. Je préfère te dire la vérité. Oublie les clichés d'amour de série B. On pourrait peut-être kiffer, t'es peut-être ma destinée. Mais je te quitterai dès que je trouve une chienne avec un meilleur pédigré.
Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire.
Des fois, je me tromperai de nom. Parce que je kiffe encore mon ex, alors je t'appellerai peut-être par son prénom. Des fois, j'entrerai à l'aube avec 12 grammes dans le sang. De temps en temps, je penserai à une autre quand on couchera ensemble. Tu verras jamais mes parents et je veux pas rencontrer les tiens. Je veux pas qu'on crée des liens, je te préviens. Si tu me dis je t'aime, je répondrai je t'aime bien. Si tu veux des câlins dès le matin, c'est mort, je dors, je fais rien. Si tu cherches quelqu'un pour confier tes problèmes, suis une thérapie. J'ai plus de batterie dès que tu commences à raconter ta vie. Si tu crois que t'es enceinte, je disparais comme par magie. J'aurais changé d'adresse avant que tu sois rentré de la pharmacie. C'est l'amour à sens unique, je donne pas de signe d'affection en public. Tu passes après mes potes et ma musique. Ça commence par bébé, petite puce, princesse, mon ange. Ça finit par où t'étais petite, quand est-ce qu'on mange?
Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire.
Or Aurel San, toujours la grande classe dans ce grand moment de poésie radiophonique que vous venez d'écouter. À l'instant, Aurel San avec son extrait, son premier album il y a presque une dizaine d'années, c'était Pour le pire, où donc il nous conseillait de pas toujours dire la vérité parce que ça pouvait nous amener des petits soucis. Hein. On n'est pas toujours fiers de nos plus sombres pensées. Et des sombres pensées qui sont parfois mises en texte, ben, dans des textes un petit peu humoristiques, gentiment macho, hein. Faut pas prendre tout ça au premier degré, bien entendu, comme on vient de l'écouter. Et Erosmose aime justement faire la part belle au beau texte, notamment grâce à toi, Laurence. Eh bien, on va pas faire exception dans cette première émission de l'année. Tu nous as ramené un joli poème.
Eh ben, alors, je vais vous lire un texte qui va peut-être donner le ton de l'émission. C'est un poème que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. En tous les cas, vous connaissez l'auteur. Il a dû vous faire suer à l'école. C'est Pierre Corneille. Et c'est un poème de extrait d'Estance à Marquise. Marquise étant Marquise Thérèse Gorla, qui était comédienne. Évidemment, le poème s'appelle « À la marquise ». Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps, aux plus belles choses, se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On a vu ce que vous êtes. Vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez un qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés et pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle, où j'aurai quelque crédit, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Pensez-y, belle marquise. Quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Alors la réponse qu'on prête à la marquise, je la dis quand même, c'est vrai, a répondu marquise. Je suis frivole, assurément. Mais puisqu'il faut qu'on vous le dise, je n'ai que faire d'un vieil amant. Et puis il y a les fameux mots écrits par Tristan Bernard et chantés par Brassens, qui valait quand même le détour, parce que moi je l'aime beaucoup.
Mais je ne connaissais pas justement ces appendices.
Ah, là, tu vois. Hein, et peut-être donc ce qui est chanté par Brassens, c'est « Peut-être que je serai vieille », répond Marquise. « Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. » Et oui, la réponse de la marquise, elle est moins connue. Alors, est-elle vraie? Ne l'est-elle pas? Je pense qu'elle l'est. Mais je l'aime bien aussi. C'était pour donner le là de l'émission.
Dans la littérature française, les réponses des dames sont moins connues que les fausses flatteries des hommes. Alors ça, c'est étonnant.
Pas seulement dans la littérature française. Mais bon.
Oui, ça, je veux bien te croire. Et merci de nous avoir donné cette réponse du berger à la bergère, en quelque sorte, si j'ose dire, de ce poème, effectivement, qu'on a tous connu, qu'on a tous lu. Pour ma part, je l'avais lu au Bahut à l'école. Oui. Et en le cherchant sur Internet, en préparant l'émission, j'ai tapé comme mot-clé Voltaire, parce que j'étais persuadé que c'était Voltaire, tu vois.
Mais c'est quand même Corneille.
Ouais, donc autant pour moi. Mais en même temps, c'était aussi une époque, que ce soit le XVIIe siècle finissant de Corneille ou le XVIIIe siècle débutant le siècle des Lumières de Voltaire. Eh bien, dans tous les cas, c'était des époques où on trouvait ça normal qu'un homme âgé prenne une petite jeunette, se remarie en seconde noce ou troisième parfois avec une petite jeunette. Et l'inverse, par contre, n'était même pas... Il était tellement inenvisageable que c'était même pas conçu, tout simplement. Les gens n'avaient pas le concept. Et justement, je m'étais dit qu'il y avait quand même des poèmes de Madame Deshoulières, pour rester dans la même période, qui collaient un petit peu aussi à cette façon de voir le temps et les amours qui évoluent de la même façon. Pourtant, aujourd'hui, j'ai préféré un poème que j'ai découvert par Internet, par un heureux hasard, il y a quelques années, sur Tumblr, une plateforme Internet dont on reparlera en fin d'émission d'ailleurs. Sur Tumblr, c'était une demoiselle dont je ne connais que le... ou une dame plutôt, dont je ne connais que le pseudo, c'était Mélie Mélo d'Annabella. Et d'ailleurs, depuis, elle a supprimé son blog, malheureusement. Mais elle avait écrit un petit poème qui m'avait beaucoup fait rire. Enfin, peut-être qu'elle a piqué à quelqu'un et que moi, je lui attribue. Hein. En tout cas, je vais vous le lire. J'espère que ça vous fera rire aussi. Lorsque je serai grande, je serai une bombasse pour donner des regrets aux garçons de ma classe. J'aurai un bonnet D pour galber ma silhouette, des escarpins vernis et des cuisses en béton. Je porterai des slims déchirés de partout. Je serai à la pointe du style et du bon goût. Je créerai des tendances et l'on me copiera. Toutes les écolières rêveront d'être moi. Et puis, je trouverai un mari, des enfants, un chien ou des poissons avec un toboggan. Pour mon anniversaire, mes chéris, mes amants, se cotiseront tous pour ma liposuction. Lorsque je serai vieille, je serai une pétasse qui mangera des gâteaux tous les jours en terrasse pour claquer l'héritage de mes petits-enfants. C'est vrai quoi, ils n'avaient qu'à venir me voir avant. Et les après-midi, avec Nat et Vinny, on sortira en boîte avec des mecs en jean. On fumera des joints pour soigner notre arthrite avant d'aller twerker en dansant dans des spritz. Quand j'aurai dépensé jusqu'au dernier centime, laissé par mon mari, décédé avant moi, je trouverai un vieux, très riche et bien portant, qui n'aura ni manie ni tripoté d'enfant. Puis je mourrai sans doute d'un accident de baise. C'est vrai quoi, après 100 ans, on n'est plus très à l'aise. J'irai au paradis, ou peut-être en enfer, et sous mes ailes roses, j'aurai les fesses à l'air.
Oh mais c'est très très joli ça, c'est... En plus, c'est un résumé assez bien fait, dois dire. Non, c'est pas mal. Hein c'est
j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, ça m'avait bien fait rire quand j'avais découvert ça sur Internet.
C'est plein d'humour et c'est bien vu. Moi, j'aime bien que cette jeune fille, si elle peut vieillir en vieille dame indienne, ce sera encore mieux.
Justement, ouais. Voilà. C'est tout ce que leur souhaite. Et puis, la situation, les mœurs et la société évoluant, pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une régression, hein, de toute manière. Hélas, j'ai envie de dire. Eh bien, la situation des femmes évolue et le bonheur des hommes évolue de même, de toute façon, même si parfois il y a un petit temps d'acclimatation. Et puis, on n'est jamais à l'abri des vieux préjugés un petit peu obsolètes, mais qui ont la vie dure, comme ceux qu'une vedette télévisée, une personnalité médiatique, avec lesquels il s'est illustré récemment.
Oui,
je pense à Yann Moix qui t'a fait réagir parce qu'effectivement ses propos ont hérissé le poil un peu à tout le monde.
Comme beaucoup, sauf que comment te dire, c'est vrai que j'ai pas très envie de m'étendre, si vous me permettez cette gaudriole, sur le personnage de Moix. D'abord parce que...
Ah, je croyais dans le studio. Non.
Oui, mais d'abord parce que je le connais pas suffisamment, je n'écoute pas tellement l'émission où ça m'est arrivé, hein. L'émission dans laquelle qu'il chronique. Je crois que j'ai même rien lu de lui.
D'après Télérama, tu n'as pas loupé grand-chose. Après, moi, je ne peux pas te contredire puisque je n'ai rien lu.
Il est quand même l'auteur de celui qui... Enfin, on connaît tous Podium, au moins de nom. Il a écrit d'autres ouvrages. Il a été...
J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Podium, c'était ce film dans lequel il parodie Gaprassens.
Moi, je trouvais quand même, pour l'avoir vu, qu'il faisait du persiflage, une espèce de marque de fabrique. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Alors effectivement, il est... juste dire quand même, parce que moi aussi, je peux être vacharde quand même, qu'il a été découvert en 1994 par Bernard-Henri Lévy.
Déjà, donc, ça commence mal.
Voilà, c'est... comme ça, tout est dit. Je ne pouvais pas le louper, ça. Hein. C'était très important pour moi. Donc forcément, s'il a été découvert par BHL, il a quand même fait des trucs. Hein. Il est donc l'auteur de Podium. Il a même eu le prix Renaudot pour Naissance en 2013 et le prix Goncourt du premier roman pour Jubilation sous le ciel en 1996. Alors bon, si vous aimez les prix littéraires, rien ne vous empêche de lire Yann Moix.
Quoi qu'on puisse dire sur lui, et puis ni toi ni moi nous l'avons lu, mais en tout cas il a une certaine reconnaissance littéraire. Justifiée ou non, j'en sais rien.
Tout à fait.
Voilà. Mais de ses pairs, voilà, prix du public. Quels sont ses chiffres de vente? J'aimerais bien savoir aussi.
Alors, bon, l'histoire, c'est qu'il avait déclaré dans le journal Marie-Claire, je cite, enfin j'ai un peu abrégé, qu'il expliquait que pour lui, il était impossible d'aimer une femme de 50 ans. Je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtra alors jeune. Ça ne me dégoûte pas, mais ça ne me viendrait pas à l'idée. Elles sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir, un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire, avait-il confié, provoquant une avalanche de réactions outrées. Alors, pas la mienne, pas vraiment la mienne, parce que je trouve que ce qu'il a dit, c'est quand même une lapalissade. Évidemment qu'un corps de femme de 25 ans, ce sera toujours plus beau qu'un corps de femme de 50, de sexagénaire, quand même, dans sexagénaire, il y a sexa, de septuagénaire, d'octogénaire, de nonagénaire et de centenaire éventuellement. Donc jusque-là, c'est vrai que, bon, je crois que la phrase a été sortie aussi de son contexte. Il s'est peut-être montré violent et maladroit. Pour autant, sa parole, c'est pas celle non plus des 3 milliards d'hommes sur la Terre que vous êtes. Donc y a pas, on va pas non plus... Et il s'est peut-être montré très crétin là-dessus. Il préfère les jeunes femmes de 25 ans asiatiques. C'est pas prouvé que les jeunes femmes de 25 ans asiatiques vont forcément choisir Yann Moix. Ça
tout à fait.
Donc, ceci étant posé, ça m'a fait réagir. Ça m'a surtout donné envie d'en savoir un peu plus sur la sexualité de ces corps vieillissants. Et ces corps vieillissants qui sont en général placés dans des structures d'accueil, telles que les maisons de retraite et les EHPAD, parce que, quoi qu'on en dise, la sexualité, elle ne meurt pas parce que vous venez de choper 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est faux, ça continue. Et c'était un sujet difficile et assez tabou. Donc je voulais en savoir un peu plus, donc j'ai enquêté. Et c'est un petit peu compliqué ce que je vais vous lire parce que c'est beaucoup de propos qui ont été relevés par des gérontologues et des grandes équipes collégiales de gérontologues, d'oncologues, de sexologues, de psychologues et évidemment les personnels soignants.
Mais tu en as parlé dans ton entourage de ces gens-là puisque toi-même tu travailles dans une structure hospitalière. Donc tu as pu avoir des témoignages de première main aussi.
J'ai des témoignages qui ont été recueillis dont je vous les cite, oui. Oui, oui, mais à l'origine de cette quête de renseignements, je voulais savoir quels étaient les freins à la vie sexuelle des résidents en EHPAD. Et j'ai appris qu'ils pouvaient être générés par l'équipe professionnelle quand elle n'est pas réceptive à ce que cette vie affective et sexuelle s'exprime. Et par les familles aussi, qui peuvent refuser que leurs parents nouent de nouveaux liens, et par les personnes âgées elles-mêmes qui s'auto-censurent. Ça, c'était... regroupé dans un ouvrage « Amour de vieillesse » aux presses de l'EHESP. Du côté des professionnels, les EHPAD en France sont conçus comme des hôpitaux plutôt que comme des lieux de résidence où se pratiquent des soins. Et on a du mal à intégrer le fait que les chambres constituent le domicile des personnes. Et c'est vrai, hein. Ça c'est un propos du professeur Gérard Ribes, qui est psychiatre et sexologue à Lyon, d'où une grande difficulté à préserver l'intimité en EHPAD et le personnel de l'établissement qui entre dans la chambre d'un résident entre 20 et 25 fois par jour, et bien souvent sans frapper. Donc, je passe après parce que les familles aussi, qui sont les censeurs les plus importants de la sexualité de leurs parents, il est en effet parfois compliqué de voir un parent refaire sa vie et une réelle souffrance peut exister. On parle aussi de la peur qu'ont certains de perdre une part d'héritage au profit d'un nouveau compagnon ou d'une nouvelle compagne. Cette crainte est quand même assez rare, mais les barrières familiales sont difficiles à lever alors que le droit est du côté de la personne âgée, quel que soit son état cognitif. Et même en cas de tutelle, laquelle ne peut s'exercer sur la vie personnelle. Ça, ce sont des faits avérés. Hein. Les professionnels au sein de l'EHPAD sont là pour protéger le résident et il n'est pas question de prévenir la famille en cas de relation, même extra-conjugale. L'adultère n'est pas un délit et il n'existe pas de recel d'adultère. Et après, j'ai voulu citer ça parce que je trouvais que c'était très important parce que la moyenne d'âge aujourd'hui en EHPAD, elle est située entre 83 et 84 ans. La génération actuelle des résidents a connu sa jeunesse sexuelle avant mai 68, et ce qui influe sur leur vie sexuelle d'aujourd'hui, parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et ne pas oublier que pour les résidents d'aujourd'hui, leur jeunesse s'est faite largement dans les écoles non mixtes, la peur du qu'en dira-t-on, et avec l'idée qu'une femme « honnête » entre guillemets n'avait pas de plaisir, et que l'éducation sexuelle des jeunes hommes se faisait auprès des prostituées. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans...
ne peuvent pas connaître. Et puis...
Oui, et une autocensure règne donc encore largement qui n'a pas à être résolue par les EHPAD, les autres maisons de retraite, mais les baby-boomers qui vont arriver dans les prochaines années n'auront pas eu la même éducation et il va falloir s'y préparer. Il faudra aussi se faire à l'idée que les questions autour des infections sexuellement transmissibles, de l'utilisation de sex-toys et d'homosexualité vont davantage se poser avec les années.
Alors elle se pose déjà, à mon avis.
Elle se pose déjà, mais ce sont des pistes de réflexion qui sont très récentes, extrêmement récentes, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à vous citer. Par exemple, à propos de la démence et du consentement, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je cite quand même. L'une des premières questions qui se pose aussi bien du côté des professionnels que des familles est celle du consentement que peut apporter une personne démente à des relations sexuelles. Comment être certain qu'aucun drame ne se pose ? Les professionnels sont de mieux en mieux formés et connaissent bien leurs résidents. Ils peuvent s'assurer autant que possible de l'assentiment de la personne et repérer un changement de comportement inquiétant. Mais ce n'est de toute façon pas parce qu'on est malade d'Alzheimer qu'on n'a pas besoin de caresses, de contacts physiques. Ce sont les contacts qui nous font humains. Avec l'âge et encore plus en cas de démence, les personnes ne sont plus touchées ou seulement comme des malades. Il y a une forme de déprivation sensorielle qui peut aussi être très douloureuse. Et bon, alors après, il y a des tas de problématiques qui se posent. Donc, dans l'idéal, une fois admise l'idée que la vie affective et éventuellement sexuelle, et je dis éventuellement, mais sexuelle quand même, perdure même entre les murs de la maison de retraite, il faut ensuite organiser le service pour la respecter. Et donc, pour ça, il faut préserver des espaces d'intimité. Qu'ils entrent ensemble en maison de retraite ou qu'ils se forment au sein de l'établissement, les couples ne disposent que très rarement de chambres équipées de lits doubles, et ceci pour des raisons techniques ou médicales, parce que les lits sont souvent des lits médicalisés, voire d'organisation ou de gestion des établissements, les chambres doubles sont plus difficiles à remplir. Et cette absence de lits conjugal pousse parfois les résidents à utiliser les parties communes pour leurs retrouvailles, au risque de choquer l'entourage, les autres résidents ou le personnel, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alors, le droit à l'intimité dans les EHPAD est rappelé noir sur blanc dans la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. C'est cette intimité qui inclut la sexualité et qui dit, c'est dans l'article 4 qui dit, dispose qu'une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d'un tiers avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime. Le personnel n'a donc pas le droit de s'y opposer et doit même tout faire pour défendre leur intimité.
Bon, tu parlais de cette charte, elle a été établie par qui et quand en fait ?
Il y a une charte dans tous les hôpitaux, même quand tu viens.
Ah d'accord, c'est la charte de l'hôpital.
Tout à fait, mais c'est une charte qui est la même que tu sois patient en visant à te faire enlever un ongle incarné ou rentrer dans un EHPAD, et jusque-là tu as encore le temps. Donc, en ce qui concerne les soignants, donc, que doivent faire et que peuvent faire les soignants ? Alors, pour les cas les plus graves, comme les maladies d'Alzheimer, il peut être opportun d'informer la personne référente pour qu'elle donne son avis sur la relation. La personne référente, on en parlera une autre fois. En revanche, il n'est pas souhaitable de mêler la famille à la question. Les proches n'ont pas à avoir un quelconque droit de regard sur la relation. C'est à l'établissement de prendre ses responsabilités et pas aux enfants de décider de la sexualité de leurs parents. Et c'est très important, en même temps qu'il faut savoir poser des limites, surtout quand la sexualité des résidents prend un aspect pathologique, l'exhibitionnisme, la masturbation compulsive, parce qu'il arrive également que l'objet de leur désir se porte sur le personnel soignant, et que lors de la toilette, par exemple, les soignants sont parfois confrontés à des situations éventuellement gênantes, du style érection ou main baladeuse. Et dans ce cas, il appartient aux soignants de remettre la distance nécessaire en expliquant clairement aux résidents que l'on fait des soins et non pas des caresses.
Mais j'avais eu le témoignage dans une émission de radio d'un kinésithérapeute qui racontait que lui avait des relations plus sereines avec les vieilles dames dont il s'occupait dans les EHPAD justement que ses collègues féminines, parce que avec une femme, une vieille dame, malgré tout se sentira plus en concurrence. On pourrait penser qu'il pourrait y avoir une complicité, que ce serait plus facile, et en fait pas forcément. C'est pas forcément facile de se mettre à poil devant une dame plus jeune, alors que devant un homme, les vieilles dames qui sont un peu coquettes diront: vous avez vu, j'ai pas trop mal vieilli, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça reste très platonique. Mais ça reste quand même, il y a quand même une relation de séduction, aussi embryonnaire soit-il, qui s'établit dans ces moments-là. Et ça peut être important.
Mais c'est bien que tu en parles, parce que moi, j'ai le témoignage aussi, on pourra le lire peut-être vite fait. C'est une lettre d'une femme en maison de retraite que j'ai trouvée très jolie. Le tout, c'est que tu me connais, il faut que je la retrouve dans toute ma paperasse. Où elle dit, grosso modo, ce que tu viens d'exprimer.
Il y a d'autres exemples aussi, si je peux en donner. Là, c'était par exemple un exemple de première main, puisque c'était une amie de ma grand-mère que j'étais allé voir dans une maison de retraite où elle était dans la petite couronne de Paris. Et effectivement, après la mort de son mari, quand elle avait 45-50 ans, elle avait toujours eu des amoureux hein, qui sont partis en général avant elle. Et donc, elle se retrouvait à 80 ans passés dans cette maison de retraite où elle continuait à voir des hommes qui venaient la voir, qu'elle avait rencontrés en vacances ou chez des amis. Et du coup, toutes ses amies de la maison de retraite où elle était, qui était une maison de retraite privée par contre, avec laquelle elle s'entendait bien, de temps en temps, malgré tout, il y avait des commérages, des jalousies, tout ça, parce que c'était des dames qui, elles, n'avaient pas forcément fait de rencontres depuis longtemps. Et du coup, ça créait parfois des petites tensions que le personnel ça s'employait à apaiser à l'occasion.
Oui, voilà. Et le personnel, d'ailleurs, c'est bien aussi ça, parce que le personnel va se former maintenant avec un peu plus un autre regard sur cette sexualité qu'ils appréhendent eux en tant que soignants et qui ils font du nursing, c'est-à-dire des toilettes, des choses, des massages qui visent quand même à éviter tout ce qui est du stade des plaies et autres lésions. Mmh. Et la sexualité, elle est un petit peu passé à la trappe, c'est-à-dire que ces gens âgés deviennent asexués, alors qu'ils le sont encore. Donc tu parlais de la petite lettre, moi j'ai envie de lire ce témoignage, on ne cite pas son nom, c'était dans un prix réflexion transmission, et c'est une lettre qui avait obtenu le prix ex aequo, sans doute un prix de gloire. C'est une femme, on ne dit pas son âge, ce n'est pas une jeune fille. En tout cas,
ça ne se fait pas de se demander son âge à une dame.
Voici venu le temps du renoncement et des pertes. Une certaine jeunesse s'accroche encore à l'esprit, tandis que la vieillesse gagne progressivement le corps. Le corps se dégrade, il est usé, douloureux, l'aspect change. On ne se reconnaît presque plus dans un miroir, surtout au réveil. Et même si on se sent toujours jeune, les autres vous regardent comme des vieux. Imperceptiblement mais sûrement, vous avez basculé dans le troisième âge de la vie, sans même vous en rendre compte parfois, tant les activités ont rempli votre temps. Vous pouvez encore faire des découvertes, apprendre des choses, avoir des surprises, faire des rencontres, mais n'oubliez pas que si vous voyez les choses et les gens avec un regard toujours neuf et avide de connaissances, la réciproque ne va pas de soi. Tel beau jeune homme que vous rencontrerez au détour de votre vie, qui sera séduit par votre esprit, votre écoute, vous séduira quant à lui par sa beauté, sa jeunesse, son charme. Vous ne pourrez que le dévorer des yeux. Votre statut de personne âgée vous interdit de le toucher autrement qu'avec des mots. Pourtant, le désir de l'autre est toujours là. Mais il fait à présent partie des choses qu'il faut taire au risque de passer pour une vieille dame indigne. Le renoncement à la sexualité et dans une moindre mesure au jeu de la séduction qui l'accompagne fait partie des pertes essentielles dans nos vies. Le corps s'apaise, mais le regret, la nostalgie demeure de ces moments d'intime fusion où le corps exulte, comme le disait si justement Brel. Heureusement, il nous reste nos souvenirs, et puis même sans cela, la vie continue. Je suis heureuse que l'occasion me soit donnée de m'exprimer librement et anonymement sur ce sujet. On dirait bien qu'il s'agit d'un tabou, personne n'en parle. Est-ce un sujet honteux qu'il est bon de taire à partir d'un certain âge ? Là, je trouvais cette lettre très touchante. Et puis pour finir, parce que c'est un sujet très vaste, après on a quand même des pistes pour dire que la vieillesse sexuelle, elle est pas vraie. Elle peut être pour les hommes, effectivement. Pense davantage aux hommes, parce qu'on en parlait tout à l'heure. S'il y a des problèmes...
Comme je disais tout à l'heure, oui, il y a les problèmes érectiles. C'est Thérèse Claire, cette féministe discrète, mais qui était admirable, qui est morte il y a quelques années, Thérèse Claire, qui a créé justement, pour aller dans ton sens, argumenter en ton sens, la maison des Baba Yaga à Montreuil, où c'était une maison autogérée, une maison de retraite autogérée par ses résidentes, et donc des femmes s'y retrouvaient, principalement des femmes. Et les Baba Yaga en rapport aux sorcières russes, oui. des légende slave. Et donc, cette femme, Thérèse Claire, qui avait, elle, eu, elle avait été mariée, elle avait des enfants, elle était, elle travaillait et tout avant mai 68, elle a connu mai 68 alors qu'elle était déjà, elle avait presque 40 ans déjà. Et donc, elle a, venant plutôt d'un milieu traditionnaliste, pas aisé, mais en tout cas traditionnaliste, elle a découvert toute la période de l'après 68 et la liberté sexuelle, notamment, après ça. Et une fois devenue vieille dame elle-même, elle n'a pas renoncé à tout ça, elle a réfléchi dessus, donc c'était sa réflexion féministe qui s'exerçait à cette occasion, et ça a donné des résultats très intéressants, notamment pour en revenir au sujet, elle disait que pour une femme, ayant elle-même vu son corps changer avec le temps, elle disait que pour une femme, c'était plus facile de vieillir et d'avoir une activité sexuelle que pour un homme. Parce qu'un homme, il a cette contrainte, malgré tout, qu'il doit bander. Et bander dur, tant qu'à si possible. Donc, à partir d'un certain âge, voilà, ça devient...
Si tu envisages une pénétration, c'est mieux.
Voilà. Et on peut quand même avoir beaucoup de plaisir l'un et l'autre sans pénétration.
Mais néanmoins,
c'est vrai que même si la pilule bleue, depuis 20 ans, le fameux Viagra, a amélioré les choses... Et à mon avis, c'était une petite révolution. Et qui sait, peut-être que j'y viendrai moi-même un jour, hein, allez savoir. Mais c'est vrai que grâce à Thérèse Claire, eh bien, effectivement, on a pu avoir ces concepts-là.
Alors voilà, mais bon, c'est bien de le dire. Bon, j'ai des pistes aussi, mais je voulais quand même parler de d'institutions qui ont fait des efforts. Alors par exemple au Québec, je t'ai dit tout à l'heure, au Québec, on va y venir. Le Québec,
ah oui, t'avais une anecdote
peu
là-dessus.
En avance sur nous. Ils ont eux des chambres d'amour. Alors c'est des chambres pour résidents qui ferment à clé, et y a vraiment un panneau sur la porte, intimité souhaitée, merci de ne pas déranger. Et je trouve que ce serait bien que ça arrive en France aussi. Donc c'est... Alors, ça n'est pas... Je précise aussi que ces chambres d'amour, au Québec, elles sont pour les couples qui rentrent ensemble dans les maisons de retraite, mais également pour les couples qui viendraient à se former dans ces mêmes maisons de retraite.
Tout à fait.
Et je trouve ça plutôt drôlement bien vu. Et j'avais l'exemple d'autres maisons de retraite. Alors... Il y a aux Érables, Nathalie Vidal, qui est directrice adjointe de l'EHPAD Les Érables du groupe SOS Senior à Youths en Moselle. Elle dit, pour elle, la règle est simple, c'est comme dans la société, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et la structure et le prolongement du domicile. C'est comme ça qu'elle a privilégié aussi l'accueil des gens qui se rencontreraient, tels Louise et Roger. Louise a 85 ans, elle vit son amitié chaleureuse avec Roger, 82 ans. Elle affirme ne plus avoir besoin de relations charnelles, mais ils passent quand même beaucoup de temps ensemble et eux aussi disposent d'une chambre pour laquelle ils peuvent aussi avertir le personnel soignant qui vont partager un petit moment d'intimité.
Il y a un petit agenda en fait qui est tenu, non ?
Tout à fait. Et il y a une autre maison, hein, l'EHPAD des Mimosas à Comequier en Vendée. Ils sont prêts, eux. Ils ont obtenu en 2016 le label Humanitude, attestant du bien-vivre dans les maisons de retraite. Il y a 12 structures en France qui l'avaient décroché en 2017. Et il y en a plus de 60 qui sont actuellement en cours de labellisation. Et ces lieux d'accueil offrent la garantie de la bien-traitance des résidents selon 5 principes fondamentaux et plus de 300 critères. Alors, il y a zéro soin de force, sans abandon de soins, respect de la singularité et de l'intimité, vivre et mourir debout, ouverture de la structure vers l'extérieur, lieu de vie, lieu d'envie, etc., etc. Donc ça bouge quand même, ça va bouger de plus en plus parce qu'on prend réellement conscience qu'il y a des choses à faire et qu'on n'a pas fait grand chose jusqu'alors. Et tout à l'heure on a parlé des sextoys. Mais pour avoir discuté avec le gérontologue de mon unité, c'est vrai qu'avec la venue des baby boomers et de tous ces gens, dont les homosexuels, les transgenres et d'autres, eh bien oui, les maisons de retraite s'ouvriront, les EHPAD s'ouvriront, et peut-être qu'il y aura toujours les stages d'ergonomie, enfin les petites sessions d'ergonomie, etc. Mais en plus, il y aura peut-être une distribution de sextoys et autres objets. En tous les cas, là on dit ça un petit peu en rigolant, mais ça va s'ouvrir de plus en plus, et il le faudra parce que la sexualité des seniors, elle est peut-être encore taboue, mais elle existe, elle est belle, elle est souvent très tendre, elle est souvent faite de caresses, puisqu'on l'a évoqué, il y a quelquefois des vrais problèmes d'érection, encore plus sur les personnes âgées, les messieurs âgés qui ont eu eux-mêmes des problèmes de prostate, ça limite quand même fortement, ou des problèmes de diabète qui limitent aussi beaucoup,
oui,
beaucoup les érections. Les femmes sont effectivement un peu plus mieux vernies, mais pour autant, cette sexualité, elle existe, elle change de forme, mais elle existe. Alors, il faut la respecter. On va bouger, ça va bouger.
Ça, en tout cas, ça évolue et c'est bien d'en parler, puisque de toute manière, le temps passe et nous allions y être amenés, nous aussi. Donc, autant avoir ces réflexions maintenant pour mieux anticiper ce qui nous attend et le bonheur qui nous attend de toute manière dans le futur. Parce que moi, c'est pas parce que je vieillis que j'ai l'intention de faire des gros bisous et autre chose aux femmes en général et à la mienne en particulier. Voilà. Et tiens, mais justement, pour raisonner un petit peu, mais de manière un petit peu décalée à tes propos, Laurence, ben moi je pense à un petit garçon dans un film que j'avais bien aimé quand j'étais petit, qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. En fait, c'était c'est un film qui faisait un zoom en fait sur le point de vue des gamins dans la cour d'école qui commentaient en fait les divorces de leurs parents. Et il y en avait un qui disait ouais c'est dégueulasse et tout, il se remarie, il couche avec des gens. Qui connaissait pas il y a deux jours avant, etc. Et il y a un petit tu vois, ils sont une bande de CM1, CM2, et il y a un petit CP qui vient les voir ou maternelle, et qui leur regarde d'en bas et qui leur fait ouais ben moi je m'en fous, je préfère des parents qui s'éclatent plutôt que des coincés du cul, hein.
Oh, bah, exactement. Ouais. exactement ça.
Et ben en même temps, oui, je peux comprendre la parfois le choc moral de la société en général et des enfants en particulier quand dans une maison de retraite le seul ailleurs qui leur reste parfois a une vie sexuelle plus libérée a priori qu'ils ne l'avaient.
Mais il paraît qu'on a quand même qu'on a souvent la même sexualité à 80 ans qu'à 40.
Alors ça je sais pas. Je vais attendre d'avoir 80 ans pour pouvoir te répondre.
Si on est porté sur la question, on le restera. Ben ça c'est une bonne nouvelle à la limite. Voilà.
Va savoir.
Perd un peu en autonomie, mais.
Mais en même temps, je peux comprendre, disais-je, l'inquiétude qui est souvent illégitime, mais qui parfois se justifie. Je pense notamment pas aux veuves noires, mais à des dames intéressées qui détournent les héritages, par exemple. Ça, oui. C'est quelque chose qui arrive aussi fréquemment. Oui. Bon, là, on parle plus de droits financiers et de droits notariaux que de sexualité à proprement parler. Mais il y a toujours, quand ton vieux papa, donc, qui a perdu son épouse il y a une vingtaine d'années, se trouve tout soudain une petite jeunette qui, tout d'un coup, alors qu'il a du bien et du patrimoine se trouve, s'imagine du jour au lendemain un fol amour pour lui. Quand tu es l'héritier légitime de cet homme-là, tu as tendance à vouloir surveiller tous les aspects de sa vie parce que c'est ton futur héritage. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Je dis juste que je comprends ça. Même si, a priori, ça ne devrait pas pouvoir empêcher les vieux de s'épanouir. Voilà, mais après, on va pas parler de l'héritage de Johnny parce qu'on entend déjà beaucoup trop parler par ailleurs. Et pour revenir un petit peu sur Yann Moi, ben nous, on a une actualité, enfin un peu ancienne déjà, par rapport à cet homme-là. En tout cas, une anecdote, c'est que Yann Moi n'était pas une saloperie près, puisqu'il avait traité les cinémas Utopia d'antisémites parce qu'il préférait, il passait souvent des films palestiniens. Voilà. Le mec, c'était son seul argument. Ben, il y a eu un procès et il a été condamné à des dommages et intérêts. Donc voilà, il dit ce qu'il veut, mais il prend ses responsabilités et il les a payées d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà.
Alors, si tu me permets, avant que tu marques la pause, j'ai oublié de vous citer, il y a un ouvrage, une bande dessinée qui est à propos de ce que je viens de vous raconter un petit peu là. Ça s'appelle « Au coin d'une ride » et c'est de Thibault Lambert et c'est paru le 14 septembre 2014 aux éditions des Ronds dans l'eau. C'est l'histoire d'un couple dont l'un des éléments présente des difficultés cognitives telles qu'il va devoir intégrer une structure d'hébergement à long terme pour personnes âgées. Et cet ouvrage témoigne avec délicatesse et tendresse du maintien de l'amour et du désir, malgré la présence de troubles cognitifs, mais aussi les obstacles, et pas qu'au niveau de la vie amoureuse, rencontrés dans l'établissement, et ce d'autant plus que le couple dont il est question est homosexuel. Voilà.
Voilà.
C'est, j'ai pas lu, mais ça m'a donné envie. Ça s'appelle « Au coin d'une ride », et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau.
Et si vous aimez les dessins en plus des textes, je vous recommande de mon côté certaines bandes dessinées de Jean-Marc Rézère dans les années 70, qui dans Charlie Hebdo parlait déjà de cet aspect social, hein, du vieillissement de la population et du sexe chez les personnes âgées. Dans les années 70, c'était quand même assez gonflé d'oser aborder ça, mais Jean-Marc Rézère, il avait peur de rien. Il faisait ça avec beaucoup d'humour dans certaines pages de Charlie Hebdo que j'essaierai de retrouver, que je vous mettrai bien entendu sur le Facebook d'Erosmos, facebook.com/Erosmos avec un Z, comme
Zob. Comme Zizi.
Voilà. Et tiens, ben on va continuer puisque avec l'âge, hein, ben on continue.
On continue
avec le cercle.
Me dit-il en me regardant dans les yeux.
Ben oui, je vais fêter mes 42 ans bientôt, gamine. Ah ben, alors t'arrêtes de m'embêter.
Oh mon non, Dieu, mais fringant alors, que tu es, fringant que vous êtes, parce que nous avons notre régisseur fringant aussi.
Ben, t'es le plus jeune, c'est le bisu. Donc il va pas, donc il se fait discret lui. Voilà. Et ouais, avec l'âge, eh bien on s'esque toujours, mais on acquiert aussi de l'expérience et dans bien des domaines, notamment ben un peu d'expérience sur la vie qu'on aimerait parfois transmettre aux plus jeunes qui n'écoutent pas forcément, mais c'est de leur âge en même temps. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une chanson que j'avais découverte grâce à un spectacle au Festival d'Avignon il y a un peu plus d'un an. Un spectacle qui s'appelait Confidence dans le boudoir et dans lequel elle reprenait une chanson qui se disait tout simplement « Vous mariez pas les filles ouais. ».
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'aura friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas. Ne mariez pas les filles, si vous vous mariez pas.
Bonjour et re-bienvenue si vous arrivez à l'instant sur les ondes d'Osmose Radio. Enfin, les ondes, c'est oui, ma femme. Bref, si vous arrivez sur Osmose Radio, vous êtes en compagnie de Stéphane et Laurence sur l'émission Erosmose. Et sur ma gauche, Stéphane va reprendre le micro.
Pour présenter le morceau qu'on vient d'écouter.
Et vous mariez pas les filles. Vous venez d'écouter d'ailleurs.
Vous mariez pas les filles. C'était Michel Arnaud qui chantait ça à l'instant. Vous mariez pas les filles. C'était un morceau que moi j'avais découvert au Festival d'Avignon et dont les paroles m'avaient bien fait rire, hein, parce que mettez de la maille dans votre corsage et quand vous aurez 50 ans, ça servira pour vous payer des beaux petits gars. Ouais. Voilà.
Donc c'est une chanson qui s'appelait Confidence dans le boudoir. Quand même, hein.
oui, qui jouait habilement justement. Et justement, c'était des sexagénaires qui interprétaient avec force, corsage, tulle transparente, et elles étaient super sexy en fait, elles étaient très rigolotes.
Eh ben, ça fait plaisir à entendre.
Voilà, voilà, voilà. Donc pour aller dans ton sens, dans le sens de la chronique que tu présentais tout à l'heure, si vous l'avez loupé, bien entendu, vous retrouverez le podcast sur le site osmose-radio.fr où notre cher collègue Loïc met à jour la page des podcasts, bien entendu. Et moi, ben, j'avais envie de vous parler d'un autre aspect puisqu'on est en début d'année. Hein, tout à l'heure, on parlait des résolutions de début d'année. Eh bien, un truc qui m'intrigue toujours au début de l'année, c'est la différence de calendrier entre certaines cultures. Nous, pour nous, ça va de soi, c'est la Saint-Sylvestre. Et le 1er janvier, eh bien, c'est le jour de l'an et on se fête la bonne année. En général, on se laisse jusqu'au 31 janvier pour le faire. Les Russes orthodoxes et les Chinois sinophiles, on va dire, ont tendance à avoir un point de vue un petit peu différent. plutôt que nous dans le monde civilisé. Petite saloperie un petit peu chauvine, enfin bref. Et donc, les Russes, eux, fêtent, à cause des différences de calendrier entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, ont tendance à fêter le nouvel an aux alentours du 15 janvier. Quant aux Chinois, eh bien, eux, ils ont un calendrier lunaire, donc la date du début de l'année, pour eux, elle varie toujours. Tantôt, c'est aux alentours du 20 janvier, tantôt, c'est aux alentours du 10 février. Enfin bref, cette année, ce sera le 5 février pour l'année. Ce sera l'année du cochon, je crois, cette année.
Alors écoute, moi, je suis cochon et je rappelle que tout est bon dans le cochon.
Oh, je savais que t'étais une cochonne.
Voilà, je suis cochon, vous le savez maintenant.
Elle avoue. Ah là 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 là. Bon, bah, en tout cas,
moi, sans qu'il y ait chez les Vietnamiens, mais enfin bon.
Ah oui, c'est vrai que tu as raison, il y a des petites différences. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure si tu veux bien. Et donc, je m'étais dit. Puisque ces différences de calendrier nous font plusieurs réveillons pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, plusieurs réveillons durant ces tristes mois de janvier qui sont toujours un petit peu blafards, où la libido n'est pas forcément au beau fixe, eh bien moi j'avais envie de vous ramener des petites anecdotes coquines, que je vous livre comme ça en vrac, des petites anecdotes coquines sur les faits insolites qu'il y a en Russie, pour commencer, et on ira vers la Chine tout à l'heure. Après tout, hein, la Russie, la Chine, c'est pas si éloigné que ça. Culturellement, on se dit que c'est très éloigné, mais en fait, géographiquement, pas tant que ça. Quand il réfléchit, après tout, Moscou n'est qu'à quelques journées de char d'assaut de Paris. Hein,
c'est
après
ça.
Tout, voilà, c'est ce qu'on se disait pendant la guerre froide. Et puis, quand il réfléchit, Avignon n'est pas très loin du 13e arrondissement de Paris non plus. Hein, en quelques heures de TGV, c'est fait. Donc la Chine, c'est pas si loin. Voilà, voilà. Et donc, je vais commencer avec la Russie. Et la Russie qui a tout d'abord été, enfin qui a longtemps été l'URSS. Et le régime communiste était assez pudibond tout de même. Ce qui n'était pas forcément le cas de la population russe d'ailleurs. Mais le régime communiste était pudibond. La pornographie, c'était vraiment la décadence capitaliste. Et elle était officiellement interdite. Et puis dans l'art officiel bien entendu, les kolkhoziennes qui étaient peintes ou sculptées avaient les voiles, les seins recouverts, les formes suggérées bien entendu, mais parce que c'était tout de même la paysanne soviétique était la mère de la nation et de la population soviétique, il y avait quand même cette idée-là de
oui,
cette femme procréatrice.
D'une façon follement érotique hein, non plus, c'est pas, elle est pas très ni sexy ni rock'n'roll. Hein.
L'érotisme, le minimum syndical on va dire quoi, voilà, pour la procréation. Et en fait, les tétons apparaissaient pas, etc. quoi. Mais néanmoins, ça veut pas dire que la population russe était aussi pudibonde que ça. Et dans toutes les années 60, 70, 80, il y avait quand même des matériaux de photographie et des caméras amateurs. Et sans aller aussi loin que l'ont fait les Allemands de l'Est, les Russes ont su faire du porno amateur, des films érotiques amateurs. Et quand on voit ça avec 30 ou 40 ans d'écart, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça assez mignon. Quoi. Déjà, c'est des femmes des années 70, 80.
Mais
donc
ça circulait comment, sous le manteau?
En fait, bah, c'était des procédés, par exemple, pour la photographie. C'est vieux comme la photographie elle-même. Je veux dire, on trouvait les gens qui avaient les moyens de s'acheter des appareils photographiques au début du XXe siècle, par exemple, en France, en Espagne, en Angleterre ou que sais-je, faisaient déjà des petites photos coquines entre eux, par exemple. Mais seulement, ça concernait une frange limitée de la population parce que c'était la bourgeoisie qui avait les moyens de se payer un appareil photo. Ou bien, ils allaient les faire dans des studios. Mais là aussi, il fallait avoir les moyens de payer le studio. Après, dans les années 60, 70, 80, un appareil photo, y compris dans le bloc de l'Est où on disait qu'il manquait de tout, finalement, c'était pas si cher que ça. On pouvait s'en procurer un et donc faire plus facilement. C'était accordé finalement à tout le monde, à toutes les classes de la société, de se faire des petites photos coquines pour ceux qui le souhaitaient. Et du coup, ben, dans des petits intérieurs, dans des appartements collectifs où tout le monde était un peu complice et puis on faisait comme ça des petites mises en scène rigolotes qui avaient une vocation artistique, bon, qui était parfois un peu foireuse, hein, c'est clair, entre les tapis persans à 10 roubles, le samovar, la fenêtre complètement délabrée qui est réparée avec du scotch, enfin bref. Et puis en même temps, voilà, c'est les années 70-80, donc les femmes n'étaient pas épilées. Et c'était très joli quand même d'ailleurs. Et donc voilà, il y avait tout un imaginaire qui s'est créé comme ça, à la limite de la propagande officielle, en marge un petit peu de tout ça. Et je dis qu'ils ne sont pas allés aussi loin que les Allemands de l'Est. Ils avaient une autre soupape, les Russes apparemment, une autre soupape pour survivre psychologiquement à la pesanteur du système soviétique, c'est qu'eux avaient les échecs. Ils avaient ce monde conceptuel de petites cases dans lesquelles on fait évoluer des pièces. Et ils se livraient corps et âme dans ce jeu-là pour beaucoup. Et pour les Allemands de l'Est, bah, ça a été un petit peu différent. Ils se livraient livrer corps et âme dans le CESC, puisque ça a été en Allemagne de l'Est, notamment la culture du cinéma porno amateur a été vraiment très très riche pendant toutes les années 60 et 70 et 80. Et après, bon, le bloc, au moment de la réunification, tout ça est venu enrichir sans doute l'industrie porno de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest, qui elle par contre était beaucoup plus efficace et portée sur des supports modernes comme le VHS à l'époque. Voilà. Donc je vous parle de ça. Une autre anecdote insolite, alors là c'est beaucoup plus récent, c'est les cours de la bourse au journal télé en Russie. Alors vous savez qu'avec les tensions internationales, avec Poutine qui règne d'une main de fer dans un gant d'acier sur certaines parties de la Russie qui n'ont pas vocation à y être par exemple, certaines parties de l'Ukraine ou de la Géorgie, tout ça crée des tensions internationales et du coup des problèmes monétaires. Et le rouble qui a toujours été une monnaie qui a toujours eu des difficultés, malgré le fait que ce soit une monnaie qui permet de spéculer sur les matières premières, je pense au pétrole et au gaz, eh bien, le rouble avait tendance à s'effondrer ces dernières années, notamment. Et comment ils ont fait pour pas que ça affole trop la population en Russie? Eh bien, en fait, à la fin du journal télé, ces dernières années, à la fin du journal télé, ils présentaient les cours de la monnaie, donc du rouble, avec en fond, en arrière-plan, vais-je dire, des photos de jeunes filles un peu dénudées. Voilà. Donc, en gros, les Russes, ils voyaient le journal télé, ils voyaient la monnaie qui s'effondrait, leur monnaie qui valait plus rien dès qu'ils allaient un peu dans un pays étranger, s'ils en avaient l'occasion. Et mais ils en avaient rien à foutre parce qu'ils voyaient des roploplos derrière, quoi. Voilà. Donc, je doute pas qu'il y en ait certains qui aient profité de l'occasion pour se vider les bourses. Mais bon, ça, c'était le jeu de mots graveleux syndical de l'émission. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, je vais passer à autre chose. Deux anecdotes rigolotes qui sont arrivées en 2014, il y a donc 5 ans. Une en Ukraine et une en Russie. Une en Ukraine, ça a été une petite demoiselle d'une petite trentaine d'années. C'était une procureure qui a été nommée en Crimée, qui s'appelait Natalia Poklonskaya, qui a vraiment fasciné les amateurs de manga. Et souvent, les amateurs de manga sont des jeunes gens portés, pas forcément sur le manga érotique, mais qui sont à l'âge des premières amours et qui sont fascinés par les belles créatures qu'on voit dans ces bandes dessinées japonaises. Et bien là, vraiment, il y avait, ça a créé un petit peu un buzz, comme on dit, puisque cette dame, cette jeune fille, qui avait donc une trentaine d'années, qui a été nommée à un poste important quand même en Crimée à l'époque, Natalia Poklonskaya, ressemblait trait pour trait à une héroïne de manga que connaissaient donc ces jeunes gens. Je ne me souviens plus du manga en question, mais quand on le regarde sur les photos, c'est vrai que c'est une petite blonde avec de grands yeux, cette manière de dessiner était aussi un petit peu le péché mignon des auteurs japonais. Et voilà, donc ça avait un petit peu créé des fantasmes aussi. Et une autre qui avait créé des fantasmes, mais là ça date plus de l'époque de James Bond, c'était l'espionne du Kremlin qui s'appelait Anna Chapman, qui elle s'était fait choper lors d'une mission à l'étranger. Vous avez peut-être entendu parler de ça aux infos à
l'époque. Le nom me parle.
Mais... Et donc c'était une espionne qui était très très jolie, mais a priori pas très compétente. Ou alors c'était de la propagande de la part du Kremlin, on sait jamais avec eux. Hein. Dans les sous-sols de la Lubyanka, va savoir ce qu'ils vont échafauder comme plan foireux. Et du coup, bah, elle s'était fait gauler, elle avait été emprisonnée en Thaïlande, je crois. Lors d'une de ses missions et du coup ben, elle avait créé elle aussi beaucoup de fantasmes parce que c'était une espionne très très jolie mais et parfois aussi un peu vénale parce qu'elle avait revendu certaines de ses infos je crois et donc voilà elle avait défrayé un petit peu la chronique un peu comme cette séductrice cette veuve noire donc, comme je en disais tout à l'heure qui a défrayé la chronique tout récemment par exemple par contre c'est date d'il y a une semaine je crois cette info une jeune fille russe en Asie du Sud-Est qui a été emprisonnée parce qu'elle avait des dettes. Et elle a proposé de révéler des informations sur Donald Trump pour que le gouvernement américain lui éponge ses dettes. Donc voilà, donc c'est une tentative de chantage. Alors je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, elle aura essayé. Un autre truc un peu plus radical, par contre, chez les Russes, ben là, par contre, il s'agit d'un homme. Et vous savez que Poutine déchaîne les passions, pas seulement en dehors de la Russie.
Les passions, c'est cela même, oui.
C'est slave même, oui.
C'est slave même.
Slave
oui.
Men, nous, ya. Da, da, da.
Da.
Poutine,
et Kalachow.
Ben justement, Poutine, tiens, avait. Je ne pense pas qu'il était à l'origine de ça. Néanmoins, il y avait des jeunes filles très légèrement vêtues dans les jardins de Moscou lors de la dernière campagne présidentielle, où justement, les filles proposaient d'embrasser. Tu vois, c'était un peu comme le principe des free hugs, sauf que là, c'était des free kiss. Et elles te faisaient un bisou si tu promettais de voter pour Poutine. Voilà. Et voilà, donc, et en même temps, je me dis que.
Non, alors, non, non.
Comme disait Staline, hein, l'important, c'est pas qui vote, c'est qui compte le vote. Bon, bah, Staline n'avait pas pensé aux bisous, mais c'est parce qu'il avait une moustache, ça pique, sans doute. Et toujours est-il que, ouais, il déchaîne aussi quelques protestations, Poutine, y compris dans son propre pays, notamment bah, dans une frange un peu marginale, celle des artistes. Et il y avait notamment cet artiste qui s'appelle Piotr Pavlensky, qui s'était cloué les testicules sur un trottoir. Pour protester. Donc voilà, rien que vous avez tous des visages décharnés, horrifiés quand je dis ça.
Un peu extrême quand même comme méthode.
Oui.
C'est un peu violent. Hein, c'est...
Et puis je doute pas que Poutine ça les fait rigoler et que ça n'allait pas forcément influer sur sa politique. Mais en même temps, c'est un artiste qui est connu pour faire des performances d'art contemporain. Alors après, je sais pas s'il faisait du body art, mais en tout cas, pour l'occasion, il s'y sera mis. Voilà. Je vous parlais de bisous tout à l'heure. Eh bien, sachez qu'en Russie, on s'embrasse beaucoup, un petit peu comme partout, mais on s'embrasse à différentes occasions. Et le baiser sur la bouche n'est pas réservé aux amoureux. C'est dans la tradition russe, c'est dans la sociabilité russe, et depuis fort longtemps, de s'embrasser, de se faire un petit bec, en fait, sur les lèvres, pour se dire bonjour, ou des choses comme ça. Une photo qui avait fait le tour du monde et qui a été caricaturée par beaucoup de street artists, par exemple, c'est cette photo du début des années 80, dans laquelle on voit deux fossiles soviétiques de l'époque. Je crois que c'était Brejnev et Tchernenko qui se faisaient un bisou sur la bouche. Voilà, donc deux hommes, deux vieux croulants complètement d'une autre époque. Ah là, non, je parlais de la sexualité. Alors eux, je ne sais pas quelle était leur sexualité à eux, mais à mon avis, ce qui les faisait exciter le plus, c'était d'effleurer le bouton rouge, tu vois. Au lieu d'effleurer les clitoris, ils aimaient bien effleurer le bouton rouge sur la console du centre de commande de la bombe nucléaire. Enfin bref. Et donc voilà, dans la culture russe, j'allais dire la culture soviétique, la culture russe, pardonnez-moi, on s'embrasse sur la bouche, et c'est François Cavanna qui avait appris ça un petit peu à ses dépens, dans un bouquin qui s'appelle Les Ruskov, qu'il avait écrit ben là aussi, tiens, au début des années 80, et dans laquelle il relate son expérience alors qu'il était travailleur forcé dans le STO, dans un camp en Allemagne. Eh bien, il côtoyait des travailleurs ukrainiens et russes. Et du coup, ben, il en a eu l'occasion de tomber amoureux d'une femme qui s'appelait Maria. Et il raconte les premiers bisous qu'il lui a fait. Alors, il dit « Elle se jette sur moi. On s'embrasse comme deux dingues. » Comme deux dingues russes, car pour ce qui est de lui glisser la langue entre les lèvres, il y a longtemps que j'y ai renoncé. Elle avait sursauté, craché, s'était frotté frénétiquement la bouche sur sa manche et avait fait « Faux ! Oh, it is virginie ! Ne recommence jamais ça, sale cochon !» Et bon, d'accord, ça viendra. On a tout notre temps. On a toute la vie. Voilà. Mais on n'a pas toutes les missions devant nous, donc je vais abréger un petit peu.
Vous pouvez toujours reprendre le temps de lire Cavanna, les Ruskov ou les Rital ou les autres. Hein. C'est très bon.
Voilà. Et bon, je parlerai de la Chine le mois prochain, hein, puisque le nouvel an chinois, ce sera le 5 février. Et je vais conclure sur la Russie. Alors, sachez qu'il y a des petites anecdotes rigolotes. Par exemple, ben, certaines qui ne datent pas d'hier, c'était les caricatures de Catherine de Russie. Parce que le statut des femmes en Russie, il n'était pas forcément le même qu'ailleurs, qu'en Occident. Et ça a été un pays où, assez tôt, ben, une femme a pu avoir accès au pouvoir, un petit peu comme la reine Victoria.
Elle était féroce quand même, elle.
C'était une ordure. C'était un tsar d'une cruauté sans nom. Mais c'était une femme. Et du coup, comme c'était une femme, eh bien, le fait qu'elle accède à des fonctions pareilles lui a valu quelques inimitiés. Et parmi la population russe et parmi les souverains étrangers. Mais bon. Elle savait se faire respecter. Elle aussi, c'était une poignée de fer dans un gant d'acier. Et du coup, elle a fait l'objet de nombreuses caricatures. Et encore aujourd'hui, dans les musées, dans les gazettes ou certains billets internet que j'essaierai de vous retrouver, on voit des caricatures sexuelles de Catherine de Russie, qui était donc une femme de pouvoir qui pouvait se permettre d'avoir une sexualité relativement libre, comme des Messalines sous l'Empire romain, par exemple. Et justement, tout ça était assez mal vu dans les mentalités de l'époque. Et du coup, il y avait énormément de Catherine, de caricatures de Catherine de Russie, où on la voit notamment en train de se faire sodomiser par des chevaux, par exemple, parce qu'elle avait un appétit sexuel a priori assez considérable. Voilà. Donc c'est un peu bête et méchant, mais ça existait. Et ce statut de la femme dans les sociétés russes, ça se retrouve aussi dans l'armée rouge, qui a été la première à donner des rôles de combattante dans l'armée d'active. Je pense aux snipeuses, enfin ça se fait pas dire ça, en tout cas aux tireuses d'élite. Je voudrais pas que vous compreniez le terme tireuse de manière un petit peu de travers, hein, chers amis. En tout cas, ça a été les premières femmes tireuses d'élite dans une armée, ça a été dans l'armée rouge. Et donc, ben, femmes soldats, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ça. Et encore aujourd'hui, hein, en Occident, on aime bien voir des photos de femmes soldats assez sexy dans l'armée, qui n'est plus l'armée rouge, mais l'armée russe.
Bonjour. J'en connais qui préfèrent Xena la guerrière. Hein.
Ah oui, avec du poil. Enfin, elle s'épile peut-être ailleurs, mais en tout cas, elle a des poux
nénette,
de bête.
Tu vois, c'est vraiment l'archétype de la femme, des seins, la taille marquée, des hanches et une espèce de peau de bête.
Elle est sexy. Et on parlait de Catherine tout à l'heure. Il y avait un autre garçon qui a lui aussi, qui est resté très fort dans une image très forte dans l'histoire russe. C'était Rasputin.
Ah bah oui,
Rasputin, donc qui faisait un usage immodéré de son membre, lui aussi. Hein, lui aussi, c'est un chaman sibérien, Loïc. Il t'aurait plu, je suis sûr. Et Rasputin, donc, dont le sexe est conservé dans le formol au musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg. Et pour voir le mastoc, quoi, et eh bien effectivement le moine sibérien était assez bien membré, je vous confirme. Donc peut-être que quand bien même il n'y aurait que la moitié des anecdotes sexuelles qu'on lui prête qui seraient vraies, ce serait déjà pas mal, je crois. Voilà. Et enfin, je vais conclure sur pour le moment, sur le statut des femmes en Russie qui longtemps a été assez progressiste quand bien même le régime soviétique était très pudibond. Je pense notamment aux travailleuses, je pense aux filles dans l'armée rouge dont je parlais un instant, et le statut des femmes était les premières femmes cosmonautes, par exemple, ça a été Valentina Tereshkova, la première femme à aller dans l'espace. Ça a été une soviétique et c'était aussi un argument du régime soviétique pour sa propagande de faire en sorte que les femmes soient les égales des hommes aussi. Mais apparemment, avec la crise économique des années 90, tout ça s'est écoulé. Et pour ma part, je dis ça, ça n'engage que moi, il semble que si des mouvements activistes comme les Pussy Riot ou les Femen soient, je ne fais pas de jugement de valeur sur ces deux mouvements, attention, mais si leur action aussi revendicatrice, aussi radicale, se comprend dans la société ukrainienne et russe d'aujourd'hui, c'est parce que la crise des années 90 est passée par là. Et malheureusement, ça me rappelle ce que disait Simone de Beauvoir, je crois, à savoir que les libertés des femmes ont été chèrement acquises et il faudra une petite crise économique, un petit changement de régime politique pour que tout ça disparaisse et que c'est les libertés des femmes qui disparaissent en premier. Donc, que ça serve d'exemple à nos contemporaines après la crise de 2008 ou celles qui nous attendent. En attendant, c'est vrai que si les femmes parfois me déconcertent dans leur radicalisme. En même temps, peut-être que dans le contexte de la société ukrainienne, ça se comprend et ça me rend d'autant plus triste que la femme soviétique, quand bien même elle était aussi objet de propagande, a quand même été à une époque un synonyme de progrès. Voilà.
Spasibo, Stéphane.
Voilà. On va se quitter, chers amis. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. On va quand même écouter quelques notes de musique avec un titre d'un film qui est sorti le mois dernier, un film qui s'appelait Leto, qui montrait que même dans la société brejnevienne de l'époque, on ne s'amusait pas beaucoup. Les Russes savaient l'été, justement, puisque Leto, ça signifie été en russe, savaient aller sur la plage, prendre une guitare, une bonne bouteille et s'amuser entre garçons et filles à danser, voire faire autre chose.
Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. А-а-а. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. А-а-а. Лето, сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда, да, 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 да. Лето, всех хулиганы три кастета. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда, та-та-та-та-та-та-та. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться водоем. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем, умрем. Лето.
L'été, on s'amuse et au mois de janvier, on essaie de s'amuser aussi. On vient d'écouter à l'instant une chanson de Mike Noshenko qui faisait partie de la bande originale du film Leto qui était sorti au mois de décembre. Un super film si vous vous intéressez à la Russie. Et tiens, justement, ben, une anecdote que j'avais oubliée, qui est assez insolite là encore, c'est qu'une Russe a changé de sexe. Pourquoi ? Pour échapper à des dettes qu'elle avait accumulées. Et effectivement, la banque, après son opération de changement de sexe, n'a pas pu la poursuivre en justice puisque du coup, elle avait changé d'identité. Voilà, ça c'est assez croquignol. Et je vais conclure sur la Russie avec ça. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de l'émission. On est déjà à la bourre. Néanmoins, Laurence, on va quand même prendre le temps de citer quelques bouquins.
Alors,
qui te tenaient à cœur.
Oui, oui. Juste en réponse à Yann, Max, évidemment, il y a cet ouvrage de Stephen Wyszyński, Éloge des femmes mûres. Mûres, hein, on a dit pas blettes. Vous pouvez toujours le lire. Alors, moi, je l'ai lu, je n'ai pas forcément accroché, mais mon avis est mon avis. Le vôtre sera le vôtre. Et comme ce cher Yann dit des femmes de 50 ans qu'elles sont invisibles, forcément nous disparaissons, et bien nous disparaissons. C'est aussi le titre d'un livre de Scott Haim dont je suis en train de le relire. Je l'ai lu il y a quelques années, je le relis parce que je savais que quelque chose m'avait échappé. C'est un livre très fort, très dense, il n'y a pas vraiment de sexe, c'est pas très, très érotique. Mmh. Je vous en conseille néanmoins la lecture. Ce même Scott Haim avait écrit... Mysterious Skin, qui a donné lieu à...
Un très beau film, voilà. Oui.
Donc c'est pour ça que je vous conseille la lecture de ces deux ouvrages, qui ne sont pas des ouvrages faciles. Mais si vous n'avez pas quoi faire ce week-end, je pense que vous pouvez lire ça. Et puis vous pourrez toujours aussi relire un petit peu Apollinaire, tiens, par exemple.
Comme par hasard. Hein.
Comme par hasard, Apollinaire ou d'autres qui ont écrit des ouvrages érotiques. Et même Flaubert, parce qu'on en parlait hors antenne, qui a écrit des pages que j'ai lues hier... sur la vieillesse, qui est un naufrage, selon Chateaubriand. Mais avec Flaubert, il a des pages sur la vieillesse qui sont extrêmement touchantes. Un Flaubert un peu méconnu. Donc allez-y, relisez Flaubert.
Voilà, et en tout cas merci pour ces conseils littéraires, évidemment tu les mettras pour ceux qui n'ont pas tout suivi sur le Facebook des Rosmose.
Tout à fait.
On va se quitter avec quelques news, chers amis. Alors la controverse le mois dernier sur internet, ça a été le changement des règles internes du règlement général du site Tumblr, une site de plateforme sur laquelle moi-même j'ai un blog, et où justement ben, c'était considéré comme un des derniers lieux sans jugement, c'est-à-dire que contrairement à Facebook, on pouvait publier des photos de nus, artistiques ou non d'ailleurs, sans avoir forcément à flouter les poils de fouf et les tétons. Et bien là du coup c'est plus possible, et moi le premier, j'ai eu quelques billets sur lesquels j'avais eu des publications un peu érotiques, qui m'ont été signalés, soit je devais les supprimer, soit ils étaient mis en privé, donc j'ai fait appel pour certains qui étaient effectivement de l'art, et puis pour d'autres ben, ça correspond plus aux nouvelles règles du site Tumblr. Donc certains prédisent la fin du site à cause de cette pudibonderie, hein, de ce puritanisme qui a, depuis que le site a été racheté par Yahoo notamment. Et j'en suis pas si sûr, mais c'est vrai que le site va devenir moins fun. Et il n'a pas pour autant été déserté par les trolls qui veulent absolument mon numéro de carte bleue pour me vendre du porno, ou par les jeunes filles chinoises ou russes qui sont les filles à côté de chez moi qui cherchent un homme de mon genre pour se marier avec, hein, comme par hasard, évidemment. Bref, toujours voilà. Donc ça, c'était pour la petite polémique du mois de décembre. Sinon, bah, quelques news sur les réseaux sociaux. On a vu le mariage pour tous qui revenait en force en essayant de noyauter le mouvement des gilets jaunes. Et ça m'a rappelé cette pensée de Pingouin Givré qui disait sur Facebook, je crois, qui disait « Les femmes anti-IVG seront ravies d'apprendre qu'en enlevant les lettres I, V, G du mot vaginal, ben, il restait anal ». Une coïncidence ? Je ne pense pas.
C'est très bon.
Non.
C'est très bon, ça. C'est très bon.
Voilà. Sinon, le début de l'année, c'est toujours un moment de méditation. On pense à nos relations sociales qui vont et qui viennent. Et puis, c'est Mes états d'âme sur Twitter qui dit « La Terre serait de plus en plus éloignée de la Lune. » Certains se sont bien éloignés de la mienne et on n'en fait pas un reportage dans Science et Vie. Hein. Voilà. Sinon, aussi, tu parlais d'études scientifiques tout à l'heure, Laurence. Il y a Marie sur Twitter qui dit, qui constate que 10 partenaires, c'est le nombre, selon des chercheurs américains, c'est le nombre de partenaires à ne pas dépasser si l'on veut que notre mariage avec le dernier soit le bon. Et là, t'as Marie qui fait « Ah zut, c'est ballot !» Sous-entendu, elle a dû en avoir beaucoup. Tiens, décembre aussi, c'était la journée internationale de l'orgasme, le 21 décembre.
On a loupé ça On a loupé ça.
Mais non, parce que c'était aussi le jour des Rosmos.
Ah,
tu n'étais pas là, malheureusement.
Pas là.
Voilà, mais on pourrait écouter l'émission sur le site d'Osmose Radio. Et moi, j'ai appris un truc rigolo, c'est que les coccinelles ont des orgasmes de 30 minutes. Et ta brunette 1802 sur Twitter qui fait « Ah, les connasses !» Voilà. Et sinon, c'est aussi le moment des bonnes résolutions, le début de l'année. Et il y a... Et il y a José qui José et eux pardon sur Twitter qui dit elle parle de sa bonne résolution à elle et qui dit ah j'ai hâte de lui dire que je suis ok pour ne pas mettre de capote et lui annoncer la date pour sa vasectomie. Ouais. Charmante cette petite.
C'est
allez,
méchant.
On va conclure avec l'esprit de Noël qui perdure même si dans les rues d'Avignon les illuminations ont disparu. C'est Maître État qui est apparemment un notaire ou un avocat, en tout cas une profession libérale, qui dit « La magie de Noël opère encore. Pour me remercier, un client, réalisateur de films pornographiques, me propose de réaliser une vidéo de promotion du cabinet. » Et donc il dit « Waouh, vous avez perdu en première instance, venez chez moi, on vous cassera l'arrêt ». L'arrêt de cours de cassation, j'entends. Voilà. Super comme slogan. Donc, merci.
Stéphane, tu fais très fort ce soir.
Très fort. C'était vraiment l'écho des réseaux sociaux dans Erosmose. On vous cite un dernier petite info auquel on tient quand même, c'est que Osmose va être partenaire d'un festival mois de février, un festival qui se tiendra au Novotel, un festival du bien-être autour du thème de la Saint-Valentin. Donc, peut-être qu'on vous y croisera, chers amis, le mois prochain. Pour les dates, pour les détails, évidemment, vous allez sur le Facebook d'Osmose Radio. Voilà, chers amis, nous, Laurence et moi-même, on vous donne rendez-vous le mois prochain.
Oui, le mois prochain.
On parlera aussi, nous aussi, un petit peu de Saint-Valentin. En attendant...
D'ici là, vous restez sous la couette, parce qu'il fait pas très chaud.
Vous y restez tout seul ou pas.
Vous sortez un peu aussi, quand même.
Voilà, à 2, à 3, à 10 ou 12, c'est vous qui voyez.
Ça dépend de la taille de votre lit, essentiellement, mais tête bêche, on peut.
Oh là là, je te laisse la responsabilité de ces propos.
Je l'apprends.
On va se quitter, chers amis, avec quelques notes de musique, puisque on apprend tous les jours, et moi-même, j'ai appris que l'expression « to have a ball », ça signifie « avoir du bon temps » en anglais. Du bon temps, c'est une expression qui a un terme ambigu, en anglais comme en français. Et donc, quand Freddie Mercury chante « I'm gonna have a ball »,« je vais avoir du bon temps », vous imaginez qu'il se prépare à avoir une soirée agitée. Freddie Mercury, qui lui aussi était à l'actualité au cinéma il n'y a pas longtemps avec le film « Bohemian Rhapsody ». Et je vous propose de nous quitter avec le morceau de Queen, Don't Stop Me Now. Avoir du bon temps, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite en 2019.
Exactement.
Chers amis, bisous. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time.